Louis Fréchette, l'homme rouge. Il y a maintenant plusieurs années que quelqu'un m'écrivit pour me demander si je pouvais le renseigner sur ce qu'on appelle en France le petit homme rouge des Tuileries. J'avais bien comme une vague idée d'avoir lu quelque chose au sujet de ce mystérieux personnage dans certains romans historiques, d'Alexandre Dumas peut-être, mais je ne puis trouver rien de précis au fond de ma mémoire. Et comme les encyclopédies que j'avais sous la main ne purent pas me fournir aucun renseignement satisfaisant sur le sujet, je dus avouer à mon correspondant l'impuissance où j'étais de l'éclairer. Or, le hasard m'a fait trouver depuis ce que j'avais alors vainement recherché. Voici ce que rapportent les chroniques. Le petit homme rouge des Tuileries était un être fantastique, une espèce de diablotin qui, disait-on, habitait les combles du château, circulait dans les murs et dont l'apparition faisait toujours quelque grand malheur aux souverains qui l'habitaient. Voici comment un poète du temps le décrit. Vous figurez-vous ce diable habillé d'écarlate, bossu, louche et roux. Un serpent lui sert de cravate, il a le nez crochu, il a le pied fourchu. Savoir haut qu'en chantant présage au château, grand remue-ménage. On sait que le palais des Tuileries fut construit par Catherine de Médicis. À peine la fameuse reine fut-elle installée dans les appartements encore inachevés, qu'elle prit son nouveau domicile en horreur et l'abandonna pour toujours. Elle prétendit qu'un petit monstre rouge s'était établi dans le palais, s'y faisait visible ou invisible à volonté, et s'était constitué comme le génie familier de la demeure royale. Il lui était, disait-elle, apparu, il lui avait prédit qu'elle mourrait près de Saint-Germain. Or, les Tuileries, se trouvant à deux pas de Saint-Germain, l'Auxerrois, donc, adieu les Tuileries. Interdites aussi toutes les visites à Saint-Germain-en-Laye. Il fallut encore s'abstenir de passer les ponts pour ne pas s'approcher de la célèbre abbaye de Saint-Germain qui s'élevait alors du côté de la porte Bercy. Mais on n'évite pas sa destinée, se voyant près de mourir en son hôtel de Soissons, qu'elle avait fait construire près de l'église de Saint-Eustache. La vieille reine voulut savoir le nom du bénédictin qui venait de la confesser. Ah, c'est Laurent de Saint-Germain, dit le moine. Oh, la reine jeta un cri et mourut. Le petit homme rouge se montra dans la nuit du 14 mai 1610, le jour où Henri IV tomba sous le couteau de Ravaillac. Il prédit les troubles de la Fronde à Louis XIV. Comme enfant, encore enfant, le matin qui suivit le départ de Louis XVI pour Varennes, où il fut arrêté, on trouva le monstrueux personnage couché dans le lit du roi. On le rencontre encore en 1793. On prétend même qu'une sentinelle qui avait été préposée à la garde des reliques de Marat conservées en face des Tuileries mourut d'épouvante à l'aspect du fantôme. Plusieurs ont raconté que Napoléon était souvent visité par un esprit familier qu'il avait pris sous sa protection et qui lui donnait des conseils. Ce n'était autre, résumait tout à l'heure, que le petit homme rouge des Tuileries. On dit qu'il lui apparut pour la première fois au Caire, quelques jours après la bataille des Pyramides. Il aurait alors prédit au jeune général une vertigineuse fortune. Le comte de Ségur, dans son Histoire de la Grande Armée, dit que souvent, au milieu de la nuit, pendant l'hiver qui précéda la campagne de Russie, le grand empereur reçut des avertissements mystérieux. On trouve dans le recueil d'anecdotes sur Napoléon et sa cour par Chambellan, le passage suivant, reproduit par Gustave Lenôtre, à qui je l'emprunte, une partie des détails. Dans le mois de janvier de la dite année, l'homme rouge, s'adressant à un factionnaire placé dans l'escalier du château, lui demanda s'il pouvait parler à l'empereur. Le soldat ayant répondu négativement, le démon l'avait poussé, rendu immobile, puis était monté rapidement. Arrivé au salon de la paix, nul n'ayant osé l'arrêter, ou peut-être ne l'ayant pas vu, l'esprit s'adressa à Chambellan et lui demanda de pouvoir parvenir jusqu'à Napoléon. Le condamné lui observa qu'il ne pouvait guère l'introduire s'il n'avait pas une permission d'audience. Non, j'en ai pas, mais allez lui dire qu'un homme vêtu de rouge qu'il a connu en Égypte demande à le voir. Et dès que Napoléon eut vu paraître l'homme rouge, il l'amena dans son cabinet particulier, où il s'enferma avec lui. La conversation fut longue. Quelques mots furent entendus. La voix de l'empereur était suppliante. Il semblait demander une faveur qu'on lui refusait. Enfin, la porte s'ouvrit. L'homme rouge sortit, traversa avec vitesse les salles et se perdit dans le grand escalier que les Suisses ne lui virent pas descendre. Quelque peu de fois qu'on puisse accorder à une pareille aventure, il n'en est pas moins vrai que le bruit s'en répandit dans Paris. On la répétait dans les salons. Et je connais plus d'une personne que la police fit arrêter pour l'avoir raconté. Sous la Restauration, le petit homme rouge, je vis voir quelques jours avant l'assassinat du duc de Berry. Et au moment où Charles X, après avoir déchiré la charte, allait s'enfuir devant l'indignation populaire, Béranger chantait: Soyez tous instruits, enfants, mais qu'ailleurs on ignore que depuis 3 nuits, l'homme rouge apparaît encore. Où le petit homme rouge s'est-il niché depuis que Louise Michel a incendié son domicile? Et maintenant que les quinconces verdissent sur l'emplacement où s'éleva le fameux palais des rois et des Césars.